extrêmement content de vous recevoir pour parler d'Uchronie. Alors, bien sûr, alors on est un peu nombreux sur l'estrade, on s'excuse, mais bon, c'est pas grave, l'obligation de la publication qui va vous expliquer pourquoi on est aussi nombreux. Alors, je me présente, et puis comme ça, je vais laisser après Pierre dans l'ordre, il y a d'autres micros, je crois, voilà, pour que chacun se présente. Alors, nous nous réunissons pour parler d'Uchronie. Alors, c'est vrai que Céline Vial, qui est ici et qui est responsable de toutes les collections de fiction chez Flammarion, moi, je suis directrice du Père Castor Flammarion. Nous, on est des super bonnes généralistes. Hein. C'est-à-dire que quand Alain est venu très, très gentiment, et je le remercie très chaleureusement, nous parler d'Uchronie avec un K ou avec un Z ou avec je sais pas quoi, on lui a dit, nous, l'Uchronie, on sait à peine ce que ça veut dire, on est totalement inculte. Mais comme il est gentil, brillant et pédagogue, il nous a expliqué. Voilà. Alors tout à l'heure, en arrivant au salon, on s'est rendu compte qu'on était un peu des zombies parce qu'on n'était pas habillés en cyberpunk, qu'on n'était pas dans un cyberespace, on n'avait pas je sais pas quoi, mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous êtes peut-être un peu généraliste ou très spécialiste, mais Dieu merci, vous allez avoir plein d'hommes d'ailleurs hein, qui vont vous parler de ce lancement. Alors Alain, comme il est très organisé en fait et qu'il s'est dit, oh là là, les filles, elles sont super occupées, elles n'auront jamais le temps de préparer quoi que ce soit et tout, il nous a écrit tout ce qu'on devait dire. Alors là, ce que je dis, il ne l'a pas écrit, donc déjà ça commence mal, il va se dire merde, ça va durer combien de temps son truc. Donc là, en principe, je suis supposée me retourner vers Alain, mais avant, je vais laisser la parole à Pierre. Vous vous présentez peut-être chacun quand même, ça serait agréable pour l'assistance.
Ça marche. Je suis Pierre Bordage. Donc j'ai écrit le livre là qui s'appelle Ceux qui sauront. Voilà, qui est le premier de la collection Uchronie.
Bonjour, je m'appelle Éric Henrier, je ne suis pas auteur de fiction, je signe la postface de Divergence 01.
Donc moi, Jean-Marc Ligny, auteur d'une des nouvelles de l'anthologie qui s'appelle Divergence 001, pardon. Donc, vu qu'il y a trois chiffres, à mon avis, c'est qu'ils ont prévu au moins une centaine de volumes. Voilà. Donc, c'est plutôt bon signe.
Au moins 999. Bonsoir, donc Johan Elliott. J'ai également signé une des nouvelles de ce volume. Et voilà pour l'instant. Bon, on développera sans doute par la suite.
Bonsoir, Fabrice Collin, également auteur d'une des nouvelles du recueil.
Et pour faire original, Xavier Mauméjean, par chance aussi dans ce volume, pour une nouvelle.
Bon, alors donc, moi, Alain Grosset, j'ai écrit, mais j'ai eu l'honneur de réunir tous ces gens-là, et ça a été plus facile que je pensais.
Alors maintenant, je dois donc lui poser la question qui est écrite sur le papier, parce que sinon il va se dire, on va jamais s'en sortir. Alors Alain, pourquoi est-ce qu'on a donc lancé une collection d'Uchronie ?
Parce que...
Non, il en écrit plein.
Non, ce que je voulais pas faire, moi je savais dès le départ, c'était une collection jeunesse SF. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà Mango, qui était ça très bien, il y a Cirrose maintenant aussi. Donc je préférais pour les adolescents ouvrir une petite brèche avec un sous-genre que l'on appelle l'Uchronie. Et ce sous-genre, je voudrais justement qu'il devienne un genre à part entière, exactement comme l'heroic fantasy était un sous-genre il y a 30 ans de la science-fiction et est devenu maintenant un genre à part entière. Donc cette Uchronie, tout de suite, je me suis dit, parce que j'adorais ça et j'adore ma culture, adresse-toi tout de suite au spécialiste. Et le spécialiste, il est là, c'est Éric Henrier, qui pourrait peut-être nous faire vraiment tout petit peu un petit historique de l'Uchronie, comme ça, autant s'adresser, que ce soit les spécialistes qui nous fassent ça très bien.
Bon, je vais faire court, parce que je pense que la plupart des gens des utopias ont au moins entendu le terme. L'Uchronie, c'est un genre, je ne sais pas si c'est un sous-genre, mais c'est un genre qui apparaît au 19e siècle, vers 1830, en tout cas sous la forme de volume, avec un roman de M. Geoffroy, qui s'appelle Napoléon Apocryphe, dans lequel Geoffroy imagine que l'empereur a gagné à Moscou et de là a conquis le monde en passant par l'Australie et l'Afrique du Sud. Puis le terme Uchronie lui-même est inventé 30 ans plus tard par un philosophe français, Renouvier. Il a forgé le mot Uchronie à l'instar du mot utopie, donc l'idée c'est d'être non pas dans un non-lieu et dans un non-temps, et pour Renouvier il s'agit de réécrire l'histoire de la civilisation européenne sur près de 1000 ans, si l'Empire romain ne s'était pas écroulé et surtout s'il n'avait pas laissé le catholicisme s'imposer en Occident. Alors, on peut pas parler effectivement à proprement dit parler de genre, hein, parce que en tout cas dans notre pays vont apparaître des uchronies assez régulièrement dans des collections diverses et variées ou hors collection jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En Angleterre et dans les pays anglo-saxons, ça apparaît vers la fin du 19e siècle principalement, et les premières uchronies sans surprise sont sur la guerre de sécession déjà. Et puis depuis la Seconde Guerre mondiale, les écrivains de science-fiction s'en sont emparés parce qu'il s'est produit un phénomène intéressant au 20e siècle, c'est les évolutions des théories physiques, avec les notions d'univers parallèle, avec les notions, même si c'est pas très physique, de voyage dans le temps. Et donc l'écrivain de science-fiction qui est habitué à jongler avec des concepts physiques novateurs s'est amusé à imaginer des voyageurs dans le temps qui faisaient des bévues et qui se faisant créer un monde divergent de celui qu'ils avaient connu en quittant leur époque. C'est donc une forme moderne de l'uchronie, puisqu'elle fait intervenir des voyages dans le temps, là où les écrivains du 19e siècle ne se posaient absolument pas cette question. Ils situaient l'action de leur récit d'emblée dans un monde divergent, sans s'occuper de liens éventuels avec notre monde à nous et notre histoire à nous. Alors c'est intéressant de noter que si la France est le pays fondateur du genre, assez clairement, et même qui a été un fer de lance jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on a quand même sérieusement perdu cette place depuis une quarantaine d'années. Et dans un certain nombre de pays, à commencer par des pays de langue latine, mais également maintenant en Scandinavie, dans les pays de l'Est, on a depuis une dizaine d'années très fréquemment des publications et des anthologies soit d'historiens, soit d'écrivains de fiction, qui explorent l'histoire alternée de leur propre pays. Pour ma part, en France, à ma connaissance, c'est la première anthologie d'uchronie réellement historique publiée. Il y a bien eu une ou deux tentatives, mais très souvent on avait des textes qui faisaient appel à de la magie ou du fantastique. Là, Alain, lorsqu'il m'a contacté, avait pris pour parti pris de faire de l'uchronie au sens noble du terme, c'est-à-dire d'imaginer une divergence historique et un récit derrière sans faire intervenir d'éléments surnaturels. Donc à ma connaissance, c'est une première. Et donc la France, près de 70 ans ou 80 ans après l'Angleterre, revient dans le peloton de tête grâce à Divergence 01.
Toute la difficulté que j'avais, c'était d'être pris en sandwich un peu avec les grands spécialistes, parce que là, je vous recommande d'aller sur le blog Uchronique, je peux vous dire que c'est pointu. Hein. Et en même temps, donc, d'ouvrir ça au grand public. Et c'est ça qui m'a intéressé. Alors maintenant, avec le recul, je me dis, vous, là, les éditeurs, les éditrices, comment vous avez appréhendé ça? Parce que bon, vous avez reconnu Uchronie, vous ne connaissiez pas. Qu'est-ce qui vous a intéressé de nous dire oui, ok, à mon projet?
Alors effectivement, nous, on est donc un éditeur de littérature jeunesse et assez... notre catalogue est enrichi de beaucoup de romans historiques. On connaissait bien l'histoire parce qu'on suit le programme aussi scolaire des enfants. Mais effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alain, arriver sur le marché de la science-fiction pour un éditeur de littérature jeunesse, c'était pas très nouveau. On avait envie de faire quelque chose qui soit pas très loin de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait faire, et qui soit en même temps effectivement quelque chose d'un peu nouveau. Et ce qui nous intéressait dans l'Uchronie, c'est toute la dimension, ce que vous venez de dire, Eric, toute la dimension historique qui faisait qu'un enfant, un adolescent, puisque ça se destine quand même principalement aux grands enfants, mais pouvait effectivement avoir des repères et comprendre que l'histoire... Enfin, avoir une nouvelle perspective sur les choses historiques qu'il apprend à l'école et sur les faits historiques, et savoir, sans avoir forcément une grande connaissance de science-fiction, parce qu'effectivement, moi, vraiment, en tant que, avant d'être éditrice, en tant que lectrice, je l'ai lu vraiment comme une novice qui connaît l'histoire de France, l'histoire du monde et de l'humanité, et puis qui a des repères qui, tout d'un coup, explosent parce que quelque chose change. Donc voilà, on s'est mis vraiment dans la peau d'un enfant et de se dire, on ne connaît pas, on est novice, on n'a pas tous ses repères du monde de la science-fiction, et est-ce qu'on peut quand même essayer de toucher à ce monde-là avec le peu de connaissances qu'on a. Voilà.
Alors maintenant, Alain, dis-nous pourquoi tu as choisi Pierre Bordage, ici présent, comme premier auteur du roman publié en octobre.
Bon, j'espère que les autres vont pas se fâcher, mais il n'y a pas un jour à penser que Pierre, actuellement, est le numéro un de la science-fiction française. Hein, bon, vous partez
Si on démarre à moins 10, hein,
on va faire un peu de place.
C'est un jeu du chronique.
On va faire du place sur l'estrade. Non, Pierre, bah, je le connais depuis longtemps et puis je savais qu'il allait dire oui. Malgré tous ses projets, je savais qu'il allait dire oui. Et effectivement, bon, il a sauté dessus. Hein. Non, t'as pas fait ça.
Merci pour la malédiction. Je vais pas pouvoir faire 10 mètres sans que les mecs me tombent dessus, tu vois. Donc je ne suis pas le auteur numéro 1 de science-fiction en France, puisqu'il y a Bernard Werber devant moi. Merci Bernard.
Tu n'es pas un numéro 1, je sais.
Ni numéro 2, parce qu'il y a aussi Houellebecq, et puis il y a aussi Houellebecq, et puis il y a encore Dantec aussi. Il ne faut pas oublier tous ces gens-là. Pourquoi j'ai accepté ce projet D'abord, parce qu'il c'était Alain, et qui m'a fait marrer plein de fois, donc je ne pouvais plus refuser grand-chose. Et en fait, passe aussi parce que, surtout d'ailleurs, parce que l'Uchronie, j'ai toujours été un passionné d'histoire. J'ai même eu des prix quand j'étais... À l'époque, on discernait des prix à la fin d'année, des prix d'honneur, tout ça. J'ai toujours été bon en histoire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours adoré l'histoire. Parce que je pense qu'elle crée aussi un vertige imaginaire de la même façon que la science-fiction. On est bien sur un axe de temps et l'Uchronie est passionnante à ce titre-là parce qu'elle se situe dans le temps et que la science-fiction, souvent, est une littérature sur le temps. Et j'ai réfléchi et je me suis dit oui, je vais le faire, bien qu'effectivement j'ai eu un programme très chargé à ce moment-là. Je me suis donc pris une charge de travail supplémentaire, mais parce que vraiment le sujet me plaisait. J'étais venu un peu dans l'histoire, j'avais fait un petit travail sur l'enjeu mineur, mais qui n'est pas une uchronie, mais une fantaisie historique, c'est-à-dire qui respecte l'histoire, mais qui rajoute du merveilleux dans l'histoire, donc c'est pas tout à fait la même chose. J'ai adoré des livres comme les chroniques d'Alvin Lefeuzer, d'Orson Scott Card, qui est pour moi une superbe chronique, même s'il y a de la magie dedans. Et donc, j'ai réfléchi sur... Et puis, je discutais avec... j'ai des enfants, ils ne sont pas là, non, c'est bon. L'école, chiant, l'école, c'est pénible, etc. Et je me suis dit, voilà, nous avons comme acquis que l'école... pour nous, l'école est acquise... Elle est obligatoire, laïque, etc. Mais dans plein de parties du monde, il y a des gens qui ne vont pas à l'école, qui aimeraient probablement y aller. Et toute l'idée m'est venue à ce moment-là, c'est-à-dire, et si, parce que donc on est bien dans une littérature d'hypothèse, et si l'école était interdite aux enfants du peuple, qu'est-ce qui se passerait ? Voilà. Et donc toute l'uchronie de ceux qui seront m'est venue de cette réflexion, et si il n'y avait pas d'école ? Voilà. Et ça, du coup, ça m'a... obligé de nouveau à faire des recherches historiques parce que je situe l'action en 1890 à peu près et que donc il fallait que je m'inspire, que je me penche sur cette période-là que je connaissais assez mal, qui est de la Troisième République je crois, et tout ça, parce que je pense qu'effectivement plus on a de connaissances historiques de la période et plus le point de divergence est intéressant, donc je me suis plongé avec délice dans cette aventure-là.
Dans le papier, il allait parler, mais c'est à moi de parler, alors donc je reprends la parole. Alors nous, ce qu'on a quand même extrêmement adoré, c'est la simplicité de la lecture. C'est vrai que le terme d'Uchronie, on l'a mis, vous verrez, pour ceux qui ne l'ont pas vu de près encore, comme une signature, hein, Uchronie Flammarion. Mais ce qui est vrai, ce qui est extrêmement agréable, c'est vraiment un roman, bien entendu, qui part de ce principe-là, hein, et si l'école n'avait pas été possible pour tout le monde. Et je pense que c'est vraiment un récit, on a eu beaucoup, beaucoup de remarques sur le site qu'on a créé, hein, au sein de Flammarion, sur le site Flammarion, on a créé un site qui s'appelle Uchronie, que je vous invite tout à fait à aller voir, avec des questions radio-trottoir, avec des gamins à qui on dit bah alors, toi t'es d'accord pour supprimer l'école, et puis finalement quand on les met devant le fait accompli, bah ils disent pas tellement oui, hein. Je veux dire, même les garçons ils disent pas tellement bah oui, ah, ça serait super, on irait plus à l'école, et c'est vrai que c'est un bouquin qui fait extrêmement réfléchir, mais je dirais que c'est un peu le charme de, et en général les sous-entendus politiques et sociologiques qui sous-tendent en général tous vos romans, donc je veux dire la lecture première est entre guillemets évidente, je veux dire, on lit avec beaucoup beaucoup de passion, et en plus on a derrière un questionnement très fort, et c'est vrai qu'aujourd'hui réfléchir sur l'école entre autres c'est extrêmement important, et je pense qu'à travers ceux qui seront, on a une quantité incroyable de pistes pour les gamins entre eux, pour les grands ados, pour les enseignants, parce que vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont dites sur qu'est-ce qui se passe. Moi ce que j'ai particulièrement apprécié je crois, c'est l'usage d'Internet, la manière dont vous avez basculé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Internet pour les gamins c'est, on passe notre temps à dire à nos enfants, tu peux pas arrêter d'être sur Internet, là Internet c'est au contraire un outil de défense, un outil de résistance, et vraiment je trouve que c'est énormément de sujets de réflexion pour les ados, donc très très beau roman. Alors je vais dire quoi là, je sais plus ce que je vais dire, je devais redonner la question à Alain.
Attaquer sur la deuxième partie, donc l'anthologie. Donc, en même temps que je proposais que la collection démarre par un roman fort, je voulais aussi faire une anthologie pour montrer la palette des possibles. Et donc, j'ai fait donc appel à plein de gens et il y en a une belle palette là. Qu'est-ce que j'ai commencé ? J'ai commencé à appeler Pierre Pelot, qui m'a dit « Ok, je te fais la première short story uchronique ». Alors, il m'a renvoyé une phrase sur Internet, « L'arche de Noé a coulé, point ». Ce qui, effectivement, était assez radical. Alors, je lui ai dit « Ouais, c'est génial, mais tu vas m'en faire 40 000 signes », ce qu'il a fait. Voilà, ça a commencé. Donc après, cette anthologie-là, j'ai voulu la faire chronologique, justement, de travailler des points d'histoire. J'ai voulu effectivement qu'elle soit ce qu'on appelle une uchronie pure, c'est-à-dire que c'est un fait historique qui diverge, et il n'y a pas d'histoire de temps, il n'y a pas d'histoire effectivement de magie, ni rien. Et notre temps à nous n'existe pas. Hein. Il n'y a pas de référence en disant, oui, si on imaginait. Alors ce qu'on pourrait parler, c'est qu'après après Pierre Pelot, qui a commencé avec l'Arche de Noé, et après est arrivé... Jean-Marc, tu pourrais peut-être dire, toi, ton petit point de divergence.
Bah, je pensais bien être le premier, mais Pelot m'a dévancé avec l'Arche de Noé. C'est vrai qu'on peut difficilement dater avec précision l'époque où a coulé l'Arche de Noé, mais je crois qu'historiquement, quand même, les Néandertals, c'était encore un peu avant. Mais néanmoins, c'est très bien que ce soit Pelot qui ouvre le recueil, parce que j'estime énormément Pierre. Et voilà, quand Alain m'a proposé donc d'écrire une nouvelle uchronique, je me suis un peu dit, mais qu'est-ce à court ? Enfin, si, je savais ce que c'était, mais je ne me sentais pas du tout vraiment la fibre à refaire l'histoire. Déjà que j'avais passé quelques temps dans des romans historiques. Et puis, en y réfléchissant, je ne voulais pas... Bon, j'avais en tête les clichés de l'Uchronie, voilà, Napoléon a gagné à Waterloo, les Anglais ont gagné à la guerre de Cent Ans, Jésus-Christ n'est jamais arrivé ou n'est pas mort sur la croix, ce genre de choses qui ont déjà été plus ou moins traitées au travers de divers romans. Et puis en réfléchissant, en remontant comme ça de plus en plus loin dans le passé, je me suis dit, et si finalement l'Homo sapiens lui-même n'avait pas existé ? Si à la place de l'Homo sapiens, c'était cette autre race précocement disparue des Néandertals qui avait dominé le monde. Donc, je me suis dit, qui changerait effectivement pas mal la donne et le monde présent. Et donc, j'ai essayé de réunir toutes les connaissances que je pouvais avoir des Homo sapiens et des Néandertals. Notamment les romans de Pierre Pelot, Sous le vent du monde, voilà, la série Sous le vent du monde, qui est une magnifique série préhistorique que je recommande à tous, donc que j'avais lu avec beaucoup d'intérêt. Et puis, entre-temps, je vais à un salon du livre, je rencontre comme voisin de signature un paléontologue. Et là, je me dis, quelle aubaine, je vais lui poser la question et lui dire, imaginez que les sapiens n'aient jamais existé. D'abord, pourquoi ils seraient morts ? Et si les Néandertals avaient dominé le monde, quel monde ça aurait donné ? D'après les données qu'on peut savoir des sapiens et des Néandertals. Et donc, on s'est mis à discuter longuement sur les vices et vertus, qualités et défauts des races respectives. Et moi, j'ai décrété, peut-être un peu arbitrairement, mais enfin, c'est quand même un peu corrélé par les données qu'on sait, très parcellaires, que les Néandertals étaient plutôt des peuples animistes, en fait, et qui ont laissé très peu de traces dans notre monde, alors que les Homo sapiens ont été une race technologique qui a inventé le feu, la roue, les armes, le fer, etc. Apparemment, les Néandertals, qui étaient quand même... Enfin, les derniers Néandertals étant contemporains des premiers sapiens, ils auraient pu laisser des traces et on en a trouvé très peu. Ceci dit, on n'est pas certain que les peintures de certaines cavernes étaient réellement faites par des sapiens et pas par des Néandertals. Et puis, Pelot, dans un de ses bouquins, a fait une magnifique rencontre entre les sapiens et les Néandertals. Je dois avouer que je m'en suis un peu inspiré. Et j'ai imaginé que les Néandertals avaient... pas conquis la planète, parce que c'est pas des conquérants, mais que qui s'était répandu dans le monde et que les sapiens avaient fini par mourir, atteints par un mal mystérieux, après avoir s'être réfugiés dans les îles d'Océanie. Donc voilà, bah, c'est le début de l'histoire. Les Néandertals
ne leur raconte pas
tous descendants.
Alors ensuite, si je me souviens bien, il y a la Fabrice. À toi, dis-moi ton point de divergence.
Alors, on fait déjà un petit saut de quelques millénaires. On est, c'est l'histoire de Cléopâtre en fait. À la fin de son règne, Cléopâtre est acculé par Octave, Auguste, empereur romain, et acculé. Bon, d'accord. Je l'ai senti au moment où je le disais. Voilà. Bah, le point de divergence, il est justement là. On fait comprendre à Cléopâtre dans l'histoire réelle que elle est censée à un moment se suicider. Enfin, c'est l'option qui lui reste. Donc Octave lui fait porter un panier avec des cobras, une façon élégante de suggérer un suicide en fait de façon assez assez forte quoi. Et en fait la servante, une des servantes de Cléopâtre, intercepte le panier en question et c'est elle qui se fait mordre par le cobra. Et elle le renvoie ensuite à l'expéditeur. Octave se fait mordre à son tour et finalement Cléopâtre reste en vie et elle s'échappe avec quelques fidèles et elle descend vers le centre de l'Afrique et elle va fonder un royaume africain.
Ouais, il raconte tout, je tout ça non, suffit Fabrice. Ah,
c'est tout, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre alors, c'est tout.
Que c'est bien,
bah, voilà.
C'est bien.
C'est très bien.
Alors ensuite est venu Michel Pagel, qui est pas là. Lui, il a fait mourir Henri IV, assassiné à la Saint-Barthélemy. Du coup, toute la lignée des Bourbons, out. Donc là, ça change effectivement toute la perspective. Donc après, bah, je crois que c'est toi, non, je crois. Johan, qui arrive, lui.
Oui. Pour ma part, je n'ai pas voulu du tout faire original, comme mes petits camarades, puisque j'ai pris l'image de Napoléon. J'avais envie de rendre hommage quand même à notre plus grand dictateur national. C'est vrai, on écrit souvent des uchronies sur Monsieur Hitler, Monsieur Staline, mais finalement, c'est quand même oublié que quelques temps auparavant, on a eu quand même nous aussi un tyran sanguinaire qui a génocidé des millions de personnes, donc c'est très bien. On a eu ça chez nous aussi. Donc j'ai voulu montrer en 40 000 signes, donc sur une petite distance pour ce qui me concerne, comment il est devenu maître du monde et puis comment ça s'est terminé. Mais le tout est raconté d'un point de vue, c'est une pure aventure, par deux soldats du nouveau corps des Marines qui, comme chacun sait, mais ça c'est la vérité historique, a été créé dès l'indépendance des États-Unis. Et donc avec les moyens technologiques de l'époque légèrement poussés à leur paroxysme, le sous-marin entre autres. Voilà.
Donc ensuite, Xavier.
Bah moi, je suis arrivé dans les derniers, si ce n'est le, je crois.
Oui, parce que bon, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je voulais que ça soit chronologique. Effectivement, les derniers, ils n'ont pas eu tellement de choix.
Donc voilà, moi, c'était, en fait, c'était tentant parce que je savais qui était déjà embrigadé, quel tour prenait l'anthologie. Donc c'était immédiatement séduisant. Mais la contrainte, c'était les nazis. C'est moi qui ai hérité des nazis. Puis je me suis dit, il faut qu'ils y soient. Et donc autant en profiter pour faire justement un tour de mémoire, parce que l'uchronie, c'est quelque chose qu'on pratique tous quand on dit « si j'avais fait ci, si j'avais fait ça ». Et donc j'imagine que le point de divergence, il est classique. Les nazis ont gagné la guerre, bon d'accord, mais ça se passe aux États-Unis en 1963. Et Rod Serling, l'inventeur de Twilight Zone, et son scénariste attitré Richard Matheson vont monter un programme de télévision qui s'appelle Twilight Zone, qui va être un programme pour réveiller la conscience des Américains, sur fond d'arrivée, bon, 1933, l'arrivée du chancelier Hitler, qui fête son 30e anniversaire d'accession au pouvoir, auprès du président des États-Unis, McCarthy. Et donc, c'est la mise au point du show avec notamment deux acteurs juifs qui sont Tony Curtis et Kirk Douglas.
J'ai fait appel à Xavier parce que j'avais lu une nouvelle que j'avais adorée où il racontait qu'Alain Delon, qui était parti faire son service militaire...
Il a eu un vrai accident de jeep dans une rizière, il a failli perdre un œil, ce qui aurait changé
complètement plein de choses. Oui. Tout le cours du cinéma, s'il s'était blessé ce jour-là, vraiment énormément. Donc ça m'avait plu. Ça. Alors après, y a Roland, qui est par là. Roland, lui, il a son point de divergence, c'est que les Républicains ont gagné la guerre d'Espagne. Du coup, ça amène une scission de la France en deux. Et donc ça c'était très intéressant, et puis j'ai voulu absolument qu'il y ait une nouvelle anglo-saxonne, puisque Eric me disait bon, les anglo-saxons, eux, les chronies, ils adorent. Donc j'ai repris une nouvelle de Paul McCauley qui raconte l'histoire de l'espace, la conquête de l'espace sur la Lune. Eric le tient qui tient, hein, vraiment,
le Pierre Bordage il doit être moins facile à lire parce qu'il est plus lourd,
Lourd, voilà. Donc je voulais raconter cette histoire, enfin Paul McCauley raconte l'histoire de la conquête spatiale, mais c'est les Anglais qui atterrissent les premiers sur la Lune, et il fait ça d'une manière très, vraiment, vraiment superbe. Donc c'est vrai que les points divergents uchroniques peuvent paraître assez simples, mais c'était quasiment une obligation, parce qu'on s'adresse à un public jeune, et il faut qu'ils aient des références historiques. Si un auteur dit « Ah oui, mais attendez, ce jour-là, René Coty a fait ça, et ça ne va rien leur dire. » Donc, encore que...
Enfin, en même temps, on a mis roman jeunesse sur la couverture, comme ça, avec Alain, on a pu s'engueuler pendant 2-3 mois, pour la bonne raison que c'est vrai que, d'abord, vous êtes plutôt des auteurs, enfin, vous êtes aussi des auteurs adultes, enfin, qui écrivent pour les grands, comme on dit chez nous, quoi, chez les petits. Et c'est vrai que le choix graphique des couvertures et le positionnement des ouvrages faisait qu'on pouvait penser que c'était pour les adultes. Alors, comme en général, les livres pour adultes, quelquefois, restent moins longtemps en librairie qu'en jeunesse, eh ben, on a dit, on va mettre roman jeunesse, parce que c'est vrai que que ce soit celui de Pierre ou ce soit Divergence, peuvent être lus par vous. Hein, ça ne pose pas de problème majeur. C'est vrai que ce sont des romans qui ont une dimension de... Ben voilà, je sais pas, enfin de 13, 11, j'en sais absolument rien. Je sais pas, Céline, on peut dire qu'on peut le lire... tout enfant qui aime bien lire à partir de la 5e, 4e peut les lire. Mais alors, vraiment, les adultes peuvent le lire aussi. Hein, mais c'est vrai qu'on a mis romans jeunesse plutôt pour les libraires, pour se dire que voilà, ils les mettent, parce que naturellement, ils auraient pu les mettre avec les très, très belles couvertures de Benjamin Carré et de Sparte, ils auraient pu les mettre au rayon adulte. Hein.
Ceci étant, pour apprécier l'Uchronie, en général, il faut connaître au moins un peu de notion de l'histoire vraie, si je puis me permettre d'utiliser le terme. Et à part l'Uchronie des Schtroumpfs, hein, qui existe pour les petits, pour l'avoir testé, faut vraiment taper les grands adolescents après et les adultes, c'est clair. Je vais me taire beaucoup après, mais je voudrais juste ajouter que vous êtes dans l'air du temps, parce qu'il y a de plus en plus de professeurs de CES ou de lycée, en tout cas en France, qui essayent d'agrémenter leurs cours avec de l'Uchronie. Alors en France, parce qu'on a un enseignement de l'histoire depuis près d'un siècle qui est l'enseignement de l'histoire officielle, hein, puisque quand on demande à quelqu'un Marignan et s'il répond 1514, il a moins 1. Donc on a un enseignement de l'histoire extrêmement véridique, extrêmement pragmatique et factuel, qui ne laisse peu de place à la fantaisie et peu de place à l'hypothèse, en tout cas en université. C'est plus du tout vrai des autres pays, en particulier des États-Unis, où dans les grandes villes, je pense à la Californie, à Los Angeles, et dans leur zone de désuétude d'enseignement, ils se sont rendus compte que pour essayer d'intéresser les gamins ou les ados à l'histoire, il fallait maintenant développer des programmes de type simulation historique, type wargames en classe. Et c'était peut-être le seul moyen, finalement, de leur inculquer quelque chose à travers le jeu. Donc là-bas, il y a des programmes d'informatique utilisés au départ par l'armée, qui sont maintenant payés par un certain nombre d'écoles pour enseigner l'histoire sous le principe des what if. Je ne suis pas sûr que ça soit bien non plus, parce que, comme faisait remarquer dernièrement un très grand historien américain, aujourd'hui, très peu de jeunes américains savent qu'il y a une Seconde Guerre mondiale. Sa remarque était d'ailleurs de dire que pour parler d'une Seconde Guerre mondiale, encore faudrait-il qu'il sache qu'il y en ait déjà eu une première. Mais en tout cas en France, à l'extrême inverse, et à titre personnel, je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire en lisant des uchronies, c'est-à-dire assez tardivement. En classe, j'étais un très mauvais élève, parce que l'enseignement était vraiment peu ludique et effectivement laissé aucune place à l'imaginaire et au what-if.
Je crois qu'il y a aussi un petit fait à souligner, c'est que l'Uchronie peut faire peur parce qu'on sait que certains ont réécrit l'histoire à leur avantage. Hein, et voilà, donc ça, il faut faire attention avec ça.
Je crois qu'il faut être très clair, hein, il y a une différence fondamentale entre le négationnisme et l'Uchronie. Hein. L'Uchronie, c'est revisiter l'histoire, c'est c'est partir du principe d'ailleurs que son lectorat connaît l'histoire pour en apprécier la divergence. Le négationniste, c'est la nier ou la réécrire complètement. Donc là, il faut être assez clair. Maintenant, on peut aller très loin dans l'Uchronie. Il y avait un débat hier auquel j'ai assisté sur un jeu vidéo qui vient de sortir qui refait la conquête de l'Amérique et dans lequel il n'y a pas d'esclaves. Pas d'esclaves noirs, parce qu'au nom du politiquement correct, on ne peut pas imaginer développer un programme informatique imaginant la conquête de l'Amérique avec des esclaves aujourd'hui. Alors, une des personnes qui était partisan de cette approche, donc, que je qualifie de politiquement correct, avait un argument quand même assez fort, qui m'a bien plu. Il disait, vous n'imaginerez pas une simulation aujourd'hui sur la Seconde Guerre mondiale avec un détail de la Shoah et de ses conséquences économiques. Tout le monde trouverait ça indécent, donc c'est tout à fait normal d'avoir la même approche, et je trouve son argument extrêmement fort. D'un autre côté, comme je lui ai objecté hier, quand on connaît le coût de la Shoah pour les militaires nazis, c'est-à-dire et en équipement et en hommes occupés dans des camps et en trains et en munitions, etc., on peut très bien imaginer une uchronie, toutes choses étant égales par ailleurs, où Hitler arrive au pouvoir, il est exactement le même personnage que dans l'histoire, à un seul bémol près, il n'est pas antisémite. Ce faisant, il ne se prive pas de la physique nucléaire. Ce faisant, il ne gaspille pas d'innombrables ressources humaines et technologiques à maintenir des camps et à faire des choses comme ça. Et ce faisant, il a une chance de gagner la guerre. Ma conclusion hier était évidemment provocatrice et pas du tout politiquement correcte. Mais dans notre univers, on serait en droit de dire que finalement, ce qui a fait perdre les nazis, c'est leur idéologie. Enfin, l'une des causes de leur défaite pourrait être leur idéologie antisémite et nauséabonde. Mais si on fait toujours du politiquement correct, on ne peut pas dire ça.
Ah oui, j'avais oublié, effectivement, il n'est pas là, mon excuse, hein, Laurent Genefort, qui lui a fait perdurer la guerre de 14, justement, on est en 1934 et ça continue toujours. Quoi dire d'autre? Des questions peut-être?
Oui. Dans la... non. On a même des micros qui peuvent circuler.
Bonsoir. Alors moi j'ai bien compris pour Pierre Bordage, donc vous êtes documenté en quelque sorte avant de vous lancer dans l'Uchronie. Je voulais savoir si c'est une démarche qui avait été accomplie par l'ensemble de vos collègues au moment de la rédaction de la nouvelle. Est-ce qu'il a fallu vous plonger en profondeur dans l'histoire de l'époque, dans des ouvrages d'historiens, y compris même pointus, avant de vous lancer dans l'écriture, ou est-ce que vous êtes parti en quelque sorte, j'ai envie de dire, d'une base minimale, sorte manuel secondaire ou même primaire? Et puis après, vous avez laissé libre cours à l'imagination. Quelle est, en quelque sorte, la place de la connaissance dure dans le point de départ?
Moi, j'ai envie de dire que ça dépend du point, enfin de la, comment dire, du point de divergence, mais de à quel point ça diverge. Ça peut diverger un petit peu ou de façon radicale. Moi, par exemple, dans le cas de Cléopâtre qui crée un royaume africain. Ça diverge de façon assez radicale, parce que dans le même temps, l'Europe périclite complètement. Et donc, je veux dire, toute la documentation, c'est une documentation en amont, jusqu'au point de divergence, pour savoir à peu près ce qui s'est passé avant, après. J'insiste sur le fait que c'est quelque chose de très ludique, quoi, l'Uchronie, hein, c'est ce qu'on disait. Et c'est vrai que c'est un super outil, par exemple, dans les collèges, parce que c'est un exercice qui est très facile, auquel tout le monde peut se livrer. Et on peut amener les élèves à s'intéresser à l'histoire par ce biais-là, et de façon, je dirais, décomplexée, quoi. Donc, moi, personnellement, je me suis un petit peu replongé dans les circonstances de le suicide de Cléopâtre, etc. Et puis après, c'est invention totale, quoi. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Si vous faites quelque chose qui se passe comme Xavier dans les années 60, je pense que c'est pas exactement la même approche.
Oui, voilà. Au contraire, j'ai vraiment fait un gros travail de documentation parce que il fallait que ce soit extrêmement plausible. Et puis, bon, comme c'est plus proche dans le temps de notre époque, c'est plus vérifiable. Et par exemple, ce qui m'intéressait aussi, c'était de tirer les conséquences d'une Amérique non pas nazie, mais alliée. Au Troisième Reich, donc, par exemple, et puis déjà dans un premier temps, il fallait extrêmement travailler le point de divergence, parce que c'est tout simplement Oppenheimer et Los Alamos n'a pas réussi, mais les nazis ont réussi. Donc il y a eu un gros travail sur la technologie nazie pour savoir si c'était au moins plausible. Et ça l'était. Et puis même des conséquences, par exemple, Le programme Twilight Zone dépendait dans le tirage des pellicules de la Metro-Goldwyn-Mayer, donc d'un studio d'origine juive, donc c'était pas possible. Il y avait tout un travail comme ça de domino. En fait, si on fait bouger un domino, tous les autres tombaient, donc un travail de reconstruction. Mais effectivement, une fois que ça s'est maîtrisé, que c'est plausible, après il faut que ce soit de l'invention, de la création.
Oui, alors c'est vrai ce que tu dis, Xavier. La rigueur, elle continue après avec le point de divergence, puisque dans le cas de ceux qui seront, il fallait que je... il y a une réaction monarchiste, donc une seconde restauration. Donc qui vient au pouvoir si c'est les Bourbons-Orléans? Donc quelle est la lignée réelle des Bourbons-Orléans? Donc quelle est la science de l'héraldique? Je ne connais pas du tout la science de l'héraldique. Vous savez, faire des blasons pour les familles et tout ça. Donc il faut se pencher sur la science de l'héraldique. Donc chaque domino poussé... demande une autre documentation, une autre recherche à chaque fois. Et c'est vrai que c'est infini, quoi, parce que quand on commence à faire et si, et il y a des et si partout, et on est obligé de les étayer tout le temps par des connaissances. C'est passionnant parce qu'on reconstruit du coup, et là ça rejoint vraiment la science-fiction avec l'effet de réel. On est obligé de mettre l'effet de réel partout, et donc de se servir de toutes les informations dont on dispose. Et donc ça devient vraiment passionnant.
Ce qui est génial, c'est qu'un même point de divergence, on pourrait faire une anthologie où c'est toujours le même point de divergence, mais les auteurs prennent 10 ans après, 50 ans après, 1000 ans après. On voit qu'effectivement, que celui qui a 1000 ans, il peut diverger bien plus facilement quelque part. C'est un petit peu moins compliqué que le gars qui raconte 10 ans ou après, où là, il a besoin de documentation.
Moi, je dirais que plus on remonte dans le temps, en fait, plus c'est... ça laisse de la part à l'imagination, et plus le point de divergence en lui-même devient flou. Là, dans le cas de Xavier, de Fabrice, de Johan, le point de divergence, c'est une date précise, un événement précis qui fait retourner la situation. Moi, d'imaginer que les Néandertals aient pris la place des sapiens dans le monde, c'est pas situé à une date précise. D'ailleurs, même dans le cadre de l'histoire officielle, on ne peut pas situer précisément. On sait qu'ils ont cohabité pendant un certain nombre de milliers d'années. On ne sait pas trop pourquoi ils sont éteints. On ne sait pas trop, dans les traces de culture qu'on voit, qu'est-ce qui est à la part des uns ou des autres. On sait simplement que les sapiens ont fini par dominer puisqu'on est leurs descendants. Après, moi, j'ai travaillé en fait sur ce qu'ont déjà imaginé finalement des auteurs. Soit de SF qui font de l'historique comme Pierre Pelot, soit des historiens, des paléontologues. Après, la recherche documentaire a été assez pratique pour essayer de reconstituer au mieux l'environnement de l'époque.
3 semaines à Lascaux, tu m'as dit. Pour répondre à ta question tout à l'heure, pourquoi Divergence 001, c'est qu'effectivement, j'aimerais bien qu'il y ait un 002. Pourquoi? Pour faire une anthologie, pour montrer cette fois, non pas des faits historiques, mais simplement, par exemple, l'apparition ou la non-apparition d'une invention, d'un objet, et montrer qu'une divergence totale peut se faire exactement la même chose. L'ordinateur apparaît 10 ans après.
C'est plus dur. C'est souvent dans le domaine des techniques, oui, on dit que quand quelque chose n'est pas
inventé... C'est pas moi qui écrirais, c'est eux. Donc
il faut vraiment des bons auteurs cette fois.
Oui, cette fois des number one.
Quand je dis c'est plus dur, c'est pour le thème en soi, puisqu'on dit souvent que si la physique atomique n'avait pas été mise au point par un tel, c'était dans l'air du temps et ça serait arrivé. Le seul contre-exemple que je connais, c'est l'invention du papier. Jusqu'à preuve du contraire, il est apparu quelque part au sens papier, papyrus, et il n'est pas apparu sur 40 continents. Mais toutes les autres techniques, quand on fait une analyse un peu fine, on se dit qu'elles étaient dans l'air du temps, elles auraient fini par arriver d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je trouve ça plus vache, si je puis me permettre le terme, pour les auteurs comme cahier des charges.
Mais un truc que tu m'as raconté au téléphone qui m'a bien plu, si tu veux en parler 2 secondes, de ton idée que... l'histoire du cheval, la non-apparition du cheval.
Ça c'est un truc que j'ai découvert grâce à l'Uchronie lors d'une soirée de beuverie aux États-Unis avec un certain nombre d'écrivains et spécialistes du genre, d'ailleurs qui a fait l'objet d'un roman par Waldrop, quelque part indirectement. C'est qu'on trouve des os d'équidés dans les deux Amériques datant de 12 000, 15 000, 20 000 ans, c'est-à-dire avant le détroit de Bering. Puis après, on trouve des os d'équidés datant d'après 1492, mais on n'en trouve pas entre les deux. Et inversement, sur le continent eurasiatique, on n'en trouve pas avant le détroit de Bering, parce que j'ai découvert après, les zoologues, les spécialistes des animaux vous expliqueront que les équidés sont originaires des deux Amériques, que la race apparemment a fait la migration inverse des humains, et c'est ça le chose qui est très bizarre et qu'on n'arrive pas encore à expliquer aujourd'hui, elle s'est ensuite éteinte des deux Amériques. Et donc elle a été réintroduite par les conquistadors qui, comme chacun sait, sont débarqués avec leurs chevaux. Juste pour expliquer pourquoi je citais Waldrop, son roman démarre où on est en train de déterrer un os de cheval dans un tumulus du XIIIe siècle, et ça c'est absolument impossible, sauf à imaginer qu'un cheval a pris une machine temporelle, ce qui est l'explication du roman derrière, mais passons. Par contre, ce qui était intéressant dans cette soirée de Beuvry, c'est qu'on avait évidemment imaginé qu'il n'y avait pas eu de glaciation du détroit de Bering, ce qui nous laissait bien sûr aucun humain dans les deux Amériques, ça c'est un fait, mais les équidés aussi dans les deux Amériques continuent d'évoluer, et par contre le visage de l'Europe est changé, parce que qu'est-ce qui va remplacer le cheval et dans l'agriculture, et ensuite comme outil sous les Romains, principalement non pas d'animal de guerre, mais d'animal de message, c'est-à-dire le internet romain quand ils étaient en bataille, c'était le cheval quand même, c'est celui qui permettait à un stratège assez rapidement de savoir la position de l'ennemi, et puis ensuite il va devenir vraiment un animal de guerre avec l'invention d'un certain nombre de blindages du cheval jusqu'à l'apparition du tank qui va le remiser au simple PMU et à la boucherie chevaline. Quand on s'imagine à délirer là-dessus, bien sûr les éléphants viennent à l'esprit, mais on sait très bien que les éléphants, un petit rhume les arrête dans les Alpes, donc c'est un animal très robuste pour le combat, mais très fragile pour la température, et je me rappelle qu'un des zoologues qui était là après un certain nombre de Jack Daniels avait dit: vous avez un animal tout à fait extraordinaire en Europe historiquement, c'est le cochon et le sanglier, et s'il avait bien été sélectionné, il aurait dû donner un animal de guerre assez fantastique. Donc j'ai toujours rêvé de voir un jour un magnifique roman avec des armées mongoles sur sanglier.
Oui. Il l'a déjà fait, les fables de l'impure.
On peut peut-être vous parler un petit peu, on peut aussi laisser poser des questions, mais en tout cas le programme 2009, parce que là on est quand même presque, même si Divergence 001 n'est pas encore paru parce qu'il sort dans 3 jours, donc soyez patients, mais en tout cas on a déjà un très beau roman pour 2009 qui est écrit, que nous avons eu le plaisir de lire il y a déjà quelques mois de Johan Elliott. Est-ce que vous voulez nous en parler juste en deux mots? Ça serait...
Deux mots. Alors, à nouveau, ça y est, il faut que je m'arrête. J'ai choisi un point de divergence avec le plus grand consensus possible, puisque on s'adresse à des jeunes lecteurs, à savoir la période révolutionnaire française. Et puis, j'ai laissé leur chance à la famille royale, tout simplement. Je trouve un petit peu injuste, quand même, qu'on ait coupé la tête à ces gens-là. Louis XVI n'était quand même pas un mauvais bougre, loin s'en faut. Donc, j'ai imaginé qu'ils aient pu vraiment s'échapper grâce au summum de la technologie de l'époque, à savoir le ballon, qui n'est pas la montgolfière, qui est la charlière. En gros, une charlière, c'est ce qu'on appellerait une montgolfière aujourd'hui. Il faut savoir que les frères montgolfiers avaient un rival, Monsieur Jacques Charles, que l'histoire a malheureusement oublié, mais qui est, lui, le vrai inventeur du ballon. Il a inventé la nacelle en osier, le brûleur, le fait de non plus le remplir d'air chaud, mais de gaz. Voilà, j'oublie. Enfin, bref, donc j'ai imaginé que Louis XVI... féru de technologie moderne, avait largement sponsorisé Jacques Charles et, grâce à cette invention, avait pu vraiment s'échapper. De fil en aiguille, toute la petite famille royale ainsi que le marquis de Lafayette se retrouvent aux États-Unis et mon histoire commence vraiment là, puisque aussi, je suis un petit peu un nostalgique de la vraie époque coloniale de l'Amérique. Quand même, par la faute à Napoléon, on a quand même perdu un tiers du territoire américain, ça je ne lui pardonnerai jamais. Donc voilà, j'ai tout fait démarrer mon histoire, donc qu'est-ce que va devenir cette famille royale sur une petite génération. Les narrateurs, les héros principaux du roman sont les enfants de la famille royale, et puis on suit leurs aventures dans cette Amérique qui va complètement changer de visage.
Et donc pour 2009, le deuxième titre qui est en train d'être écrit par Michel Pagel, lui traite tout simplement que Jules César se fait assassiner quelques semaines avant Alésia, et donc Vercingétorix sort vainqueur de cette bataille, et ça chamboule complètement là encore toute notre histoire. Qu'est-ce que je pourrais... Oui.
Nous, en tant qu'éditeurs, je pense que c'est un pari pour nous qui est intéressant, parce que c'est vrai que, contrairement certainement au monde adulte dans lequel on a peut-être beaucoup de repères, on sait que, par exemple, que les femmes lisent plus de romans en général et que les garçons, les hommes lisent plus d'essais. C'est vrai que globalement, dans les grandes tendances, c'est un peu vrai, même si tous les stéréotypes ne veulent jamais rien dire. Mais enfin, quand même, globalement, quelque part, c'est un peu vrai. Nous, en tant qu'éditeurs de livres pour la jeunesse, même si nous nous arrêtons à 18 ans, la majorité, on a toujours ces questionnements-là. Alors, quand on publie, je sais pas, Les Colombes du Roi Soleil, bah c'est vrai qu'on devine un peu qu'on a 98% de filles qui lisent Les Colombes du Roi Soleil. Et en publiant l'Uchronie, bah voilà, ça c'est une vraie interrogation, parce qu'à la fois on est dans de l'histoire avec un roman extrêmement captivant, et en même temps on a quelque chose qui est de l'ordre, bah voilà, d'un technologiquement littéraire, hein, je veux dire. Et si on décalait tout, et là c'est vrai qu'on a en tout cas eu l'intuition, même si on peut se tromper, mais parce que c'est quand même pas non plus ni de la science-fiction ni du fantastique, on a l'intuition aussi qu'on peut toucher un public assez large, hein, et en tout cas les garçons, ce qui est pour nous est un public important, parce qu'il y a autant de garçons que de filles à peu près, et c'est vrai que c'est un public qui est beaucoup plus difficile à cerner, beaucoup plus difficile à toucher. Et même si on sait que le thriller peut leur plaire, on sait que le polar peut leur plaire, mais n'empêche que c'est vrai que à travers l'Uchronie, voilà, on se le dira dans un an, quand on aura déjà un peu plus de recul sur nos lecteurs, mais ça sera intéressant. Et aujourd'hui quand on a fait les radios trottoirs, quand vous regardez, il y a autant de filles que de garçons qui ont envie de répondre, donc ça c'est, je trouve que c'est sympa. Et si on avait une collection pour laquelle on réunirait, certainement pour des raisons différentes d'ailleurs, un public composé de garçons et de filles, bah, je trouve qu'on aurait réussi quelque chose de bien en tout cas. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ?
Moi je veux bien que cette littérature soit distrayante et puisse aussi pousser l'enfant à apprécier, à connaître l'histoire, mais c'est un souhait, parce que d'abord, vous partez d'un... Bon, je ne sais pas, à travers tout ce qui a été dit, on pourrait très bien dire aussi Attila, bon, s'il n'avait pas été anéanti par Aétius, Clovis réunis, et puis s'il n'y avait pas eu le cheval aussi, comment il serait arrivé là? Mais de là, après, à donner un lien à toute cette histoire, c'est très parcellaire, en fait. Vous partez de... On pourrait partir d'Alexandre le Grand aussi. Bon, si on parle pas d'Alexandre le Grand, c'était énorme. Ouais, mais, oui, mais qui était ce type-là? Et ainsi de suite. Non, mais attendez, je veux pas... Mais je pense qu'il faut arrêter... Je pense que l'ambition de dire, voilà, ça pourrait susciter ceci, cela... C'est vrai, pour certains, ça le fera certainement. Personnellement, moi, j'ai lu des thrillers, et il y a quelques années, je me suis intéressé à l'histoire. J'ai dit, voyons, entre l'an 0 et l'an 1000, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on sait à peu près, hein, plus ou moins. Et puis, plus on se rapproche, plus on connaît, quoi. C'est peut-être l'essentiel, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a de sacrés trous, hein, dans toute l'histoire. Si on remonte à Darius et toute sa dynastie, et puis... qu'est-ce qui s'est passé 3000 ans avant nous, il s'est passé des choses extraordinaires quand même. Il y a eu toutes ces grandes civilisations mésopotamiennes et autres. Et oui, si vous voulez, comment arriver à faire la liaison et faire que quelqu'un ait une idée un petit peu de notre histoire?
Mais c'est pas forcément le but. Hein. Là, d'abord, ah oui. On s'adresse à des enfants déjà l'une ou des adolescents, et deuxièmement, ce sont des œuvres de fiction. Donc c'est quelque chose d'important. Ce ne sont pas des traités d'historiens, ça existe aussi, hein, pour satisfaire votre soif, mais ce ne sont pas des traités d'historiens écrivant des uchronies sur leur période favorite. Ce sont des œuvres de fiction, donc ça doit pour moi allier un double équilibre, qui est les qualités déjà d'un roman ou d'une nouvelle, hein, en soi, qui sont des qualités littéraires intrinsèques qui n'ont rien à voir avec l'uchronie, et éventuellement, puisqu'on est dans le genre uchronique, un intérêt historique. Alors, la difficulté très souvent notable, c'est qu'il y a deux temps importants dans ce type de récit. Il y a le temps, on l'a vu, du point de divergence, et il y a le temps qui est choisi ensuite par l'auteur pour fixer son action. Donc, par exemple, vous pouvez faire diverger l'histoire sous Attila et décrire un univers qui se passe en 1978. Plus vous allez être écarté dans le temps, moins, comme vous le dites à juste titre, il y aura certainement comment dire, de validité historique ou de trous, il y aura beaucoup de choses à expliciter, mais ce n'est pas le but d'un écrivain de science-fiction, parce que s'il s'amuse à remplir et à essayer de justifier comment il est arrivé à un monde de 78, il va nous faire un livre profondément chiant, sans aucun intérêt, et puis de toute façon c'est injustifiable, puisque l'histoire n'est pas telle qu'on la connaît. Donc ça, c'est déjà un premier risque. Donc je crois que le pendant qui a été pris par un certain nombre des auteurs, c'est de ne pas se poser cette question, parce que si on se la pose, de toute façon, on ne fera jamais un bon récit uchronique. L'opposé inverse, ça existe aussi, c'est de décrire qu'à Waterloo, Grouchy arrive et de faire 300 pages sur les 3 heures entre le moment où Grouchy arrive et la succession de la bataille. Ça s'appelle du Wargames ou du Kriegsspiel. Ça existe en livre, d'ailleurs ça existait en livre avant d'être pratiqué en salle. C'est extrêmement intéressant pour un certain nombre de fans militaires, mais là encore, ça va restreindre profondément le public. Et enfin, le dernier point, ça a été souligné maintes fois par les gens autour de cette table, on s'adresse à des adolescents. Donc je veux bien qu'on prenne un point de divergence chez les Huguenots ou chez Darius ou dans l'Empire babylonien, mais déjà qu'il faudrait qu'on leur réapprenne qu'il y a une Deuxième Guerre mondiale ou qu'on leur réapprenne qu'il y a une Révolution française et qu'elle n'est pas il y a 800 ans, mais qu'elle est en 1789, je pense qu'il faut commencer par là avant de mettre des briques trop compliquées, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans un monde où, je suis désolé, quand vous faites des sondages dans la rue, les connaissances historiques... Moi, je connaissais bien la Seconde Guerre mondiale grâce aux films de guerre quand j'avais 15 ans. Mon fils, les films de guerre, ça l'intéresse plus. Ils s'en foutent. Vous passez le jour de plus long, c'est des gens de notre âge ou plus âgés qui le revoient. Donc la Seconde Guerre mondiale, ils la connaissent même plus par l'image, ce qui est déjà en soi parcellaire. Donc commençons par les grands thèmes de l'histoire. Ils sont bien représentés ici, parce que Cléopâtre, elle est connue, elle passe dans les pubs. Napoléon, ça va, on sait encore à peu près qui c'est, il est dans les jeux vidéo, la Seconde Guerre mondiale aussi. Bon, les hommes préhistoriques, je pense qu'en prenant ce panel, c'est pour ça que moi j'avais trouvé bien choisi, on leur donne au moins un éclairage et on donne à peut-être 10% ou 1%, et je suis généreux, mais ce sera déjà ça d'entre eux, l'envie d'aller creuser après et puis finalement d'être là dans 30 ans pour en parler.
Oh, puis il y a autre chose tout simplement, c'est que on a insisté sur la veine pédagogique, mais c'est aussi l'histoire, c'est un vivier d'aventures, d'histoires, de récits, de beaux personnages. Dans une anthologie, on dit on va traverser différentes époques, la magnifique Cléopâtre, les hommes de Néandertal, enfin, c'est tout un tas d'histoires de merveilleux, même hors argument pédagogique. Et si on peut prolonger ça en plus sur des romans, c'est aussi tout simplement le gage de l'évasion. C'est pas simplement un argument pédagogique, c'est aussi une magnifique succession d'aventures qui s'appelle l'histoire et qui là est inépuisable.
Et moi, il faut pas occulter la dimension jeu. Se poser des et si, c'est jouer avec l'histoire. On peut jouer avec le futur, on peut jouer avec le passé, on peut jouer avec le présent, on peut jouer avec tout. Et ça, c'est ce qui fait le roman. La fiction, c'est un jeu. Et après, on parlait d'un effet de réel. Donc, l'auteur, son seul propos, c'est de crédibiliser sa fiction au maximum. Pour que c'est un merveilleux mensonge, comme dit, selon la définition de Card. Quand on prenne l'histoire, le passé ou le futur, on donne un mensonge, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Et le rôle de l'auteur, c'est de faire en sorte que le lecteur y croit. C'est juste un jeu, c'est une convention passée entre l'auteur et le lecteur. C'est de lui raconter une super histoire avec le maximum d'éléments pour que cette histoire soit crédible. Après,
et je crois que l'histoire, la vraie histoire, les historiens, c'est un puzzle et chaque jour, ils retrouvent une pièce nouvelle qui vient apporter un éclairage nouveau et c'est montré ici, là aussi, que tout peut changer, tout peut basculer. Les références qu'on a ne sont pas forcément globalement, elles sont les mêmes, mais en point de détail, ça peut changer. Et là, montrer que ici, c'est montrer aux élèves aussi, aux enfants, que effectivement, rien n'est jamais acquis et que devant nous, les futurs, les possibles sont là en permanence et c'est ce qu'il faut peut-être pas oublier des devoirs de mémoire, comme on dit, parce qu'effectivement, le SI, on peut y retourner là où on ne voudrait pas qu'on y retourne. Donc ça, je pense que c'est là-dessus qu'il faut prendre. Et moi, je pense que là, par exemple, il existe actuellement un monde très proche du nôtre, uchronique, où il n'y a pas de la collection uchronique, et c'est un monde très triste, finalement.
Non, puis l'uchronie n'est pas un genre, même si on emploie les termes, c'est un procédé. Donc si vous lisez les œuvres des auteurs autour de cette table, vous verrez qu'il y a des polars uchroniques, il y a des thrillers uchroniques, il y a des westerns, bon là il n'y en a peut-être pas dans cet exemple-là, mais les westerns uchroniques, donc, et vous avez peut-être même lu un thriller uchronique sans le savoir, hein, qui est K de Easterman, ou tout simplement Faverland de Robert Harris, qui sont des vrais thrillers et qui sont dans un monde uchronique, donc... il ne s'agit pas de livrer de l'uchronie pour faire de l'uchronie. Il s'agit de livrer des récits d'évasion, des polars, de n'importe quoi, enfin des histoires de pirates dans un monde uchronique.
Il y a une question.
Non, mais c'est plus une remarque par rapport à la réponse qui a été faite. En fait, c'est juste... ça m'a juste amené la réflexion. Bon, là, c'est pas vraiment le propos, certainement, parce qu'évidemment, ça s'adresse à des adolescents. Mais c'est vrai que ça peut être précisément intéressant aussi de faire de lui... Enfin, est-ce que ça serait pas intéressant aussi de faire de l'Uchronie sur des points d'histoire qui sont plus méconnus que les nazis, Napoléon, etc. Enfin, je sais pas. Moi, pas pour un public forcément d'adolescents, mais dans le cadre de l'Uchronie de manière générale, bon, vous dites que c'est pas un genre, d'accord, mais ça peut à la fois mettre en lumière justement des événements historiques qu'on ne connaît plus, même qu'on ne connaît pas en tant qu'adulte, et montrer des enjeux qu'on ne soupçonnait pas. Enfin voilà, c'était juste une réflexion.
Moi, je dirais tout dépend de ce qu'on veut faire diverger. Des fois, on ne connaît pas vraiment quel est le point de divergence précis. Par exemple, si on imaginait un monde où, supposons, les Indiens ont réussi à refouler les Blancs d'Amérique, a priori, là, tout de suite, je ne vois pas quel serait un point de divergence précis qui pourrait... quelle bataille, quel débarquement... où est-ce que les Aztèques auraient rejeté les conquistadors à la mer? Est-ce que Custer aurait... il a perdu, Custer.
Là où ça peut arriver, c'est qu'effectivement, ça ne serait pas les hommes. Ça peut être, par exemple, une maladie qui décime complètement.
Ça peut être une maladie. Voilà. Peut-être les Indiens peuvent être porteurs. À l'inverse, bon, nous, les Blancs, on a effectivement décimé les Indiens par la variole, etc. Supposons l'inverse soit produit, que les Indiens aient été porteurs d'un virus, d'une bactérie, d'un truc qui est inoffensif pour eux, mais mortel pour nous. Bon, ben voilà, il n'y a pas un point de divergence précis là. Ou alors on peut situer, si on va fouiller effectivement dans l'histoire de données, on va effectivement trouver un point de divergence peu connu, d'un personnage peu connu de l'histoire qui a fait une action qui n'a pas été mis en lumière. Bon, je ne sais pas, moi, l'assassinat du duc Ferdinand Sarajevo, bon, comme point de départ de la guerre de 14, on peut le prendre comme ça, mais c'est discutable. Est-ce que la guerre de 14 aurait eu lieu malgré tout ou sans ça? Est-ce que ça a été déterminant? Finalement, on n'en sait trop rien. Ça peut être peut-être un tout autre détail. Hein.
Je vous rassure, quel que soit le point de divergence, il y aurait des portables à notre époque.
Je veux dire quelque chose par rapport à la question. C'est une question assez intéressante dans le sens où elle... est-ce qu'on peut réfléchir sur le présent en prenant des points d'histoire très précis? Et par exemple, on a des phénomènes dans le présent. Et là, j'ai pris le mot à l'école, mais est-ce que effectivement, ça peut servir? Et je pense que l'Uchronie permet une réflexion sur le présent. Donc, c'est ça l'important. C'est comme la science-fiction, c'est comme toutes ces littératures d'hypothèses. Ça nous fait que nous parler du présent et de nous à notre époque. Et donc, ça met en abîme l'histoire telle qu'elle aura pu être par rapport à celle qu'elle a été. Et donc, ouais, sa fragilité, c'est vraiment l'histoire, elle est faite de petits riens du tout. Et c'est ces petits riens qui sont intéressants qui font qu'on a besoin et envie de réfléchir là-dessus. Mais je pense que l'Uchronie est une littérature du présent, vraiment.
Si on quitte le domaine littéraire, l'Uchronie est un outil prospectiviste. Hein. Employé dans la plupart des sciences, il y a de l'Uchronie médicale, il y a de l'Uchronie économique, etc. Elle a même un nom très précis. Et elle est en général employée pour essayer de tirer du passé des modèles alternatifs permettant de prévoir l'avenir. Donc c'est avant tout, je suis d'accord, une littérature du présent ou du futur proche. Il s'agit quand même de tirer des leçons, en tout cas dès qu'on quitte l'aspect littéraire, parce que je suis parfaitement d'accord avec Xavier, ça peut être un simple outil de divertissement, et ça me suffit également aussi, tout dépend de ce qu'on veut lire et à quel moment on veut le lire.
S'il n'y a pas d'autres questions, mais il peut y en avoir d'autres, non ? Si... Monsieur ? Oui ?
L'Uchronie pour vous, dans la continuité, c'est plutôt un souhait, un regret, ou la volonté d'ancrer un nouveau point de divergence maintenant, à partir de ce qu'on a fait ?
Il y a Roland qui a répondu à la dernière question. C'était quoi la question ?
Non, c'était un souhait, un regret.
Je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais je vais donner un exemple. Je suis en train d'écrire une uchronie sur la guerre d'Algérie, ou plutôt sur ses conséquences. Et je me suis posé énormément de questions là-dessus, justement sur la question du point de divergence, sur tout un tas de questions morales,
C'est-à-dire que étant né à Alger, effectivement, j'ai un certain passé lourd par rapport à ça, et certaines images dans la tête. Et en fait, en travaillant sur cette uchronie, j'ai fait un travail qui consiste à lutter contre les images que j'avais dans la tête pour, petit 1, dégager la vérité historique, si tant est qu'il y en ait une, et petit 2, essayer de recréer une nouvelle réalité, et non point vérité historique, parce que la science-fiction, l'uchronie, comme le dit si bien notre ami, n'est jamais révisionniste, ou en tout cas n'est pas du révisionnisme. Et je pense qu'à travers ce travail et cette perception différente d'une réalité qu'il y a eu, et cette tentative d'être honnête au maximum, parce que la guerre d'Algérie, c'est pas comme la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est facile de faire une uchronie. Il y a les bons, il y a les méchants. Les méchants, c'est les nazis, les bons, c'est nous. Dans la guerre d'Algérie, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants. Ou alors, il n'y a que des bons ou que des méchants. Je veux dire, il y a... Donc, à partir de ce moment-là, mettre un truc... C'est pour ça qu'il n'y en a qu'une seule qui a été écrite et qui est une uchronie révisionniste par quelqu'un qui fait gagner la guerre d'Algérie par l'OAS. Inutile de dire que mon bouquin sera absolument pas comme ça. Mais je pense que je me suis tapé tous les problèmes qu'on peut rencontrer par rapport à l'uchronie. Parce que là, on est dans un sujet qui fait encore très très mal en France. Et que, bon, c'est clair que quand le bouquin va paraître, je vais me faire incendier de partout, mais je pense que c'est parce que j'aurais essayé d'être honnête vis-à-vis de moi-même. Et être honnête vis-à-vis de moi-même, ça veut dire être honnête vis-à-vis de tous les acteurs historiques, y compris les moins importants qu'il peut y avoir, y compris le type qui s'est fait torturer en 57 pendant la bataille d'Alger, ou la pauvre nana qui s'est fait éventrer par des gens du FLN ou n'importe quoi. C'est tous des victimes. La guerre d'Algérie, c'est un truc où il n'y a eu que des victimes. Donc il n'est pas question de révisionnisme. Et par contre, il est question d'une énorme empathie avec tous les personnages au sens large de tout le truc. Et si je n'ai pas répondu à la question, eh ben, je fais mes excuses.
Non, le regret, je ne pense pas qu'il y ait de regret.
Si Johan a dit qu'il regrettait que l'Amérique ne soit pas française. Hein.
Moi, personnellement, je trouve que quand même, je regrette que l'Empire romain n'ait pas duré jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'au lieu de s'emmerder à faire la vaisselle, on aurait des esclaves. Merde.
Jusqu'à 45, toutes les uchronies sont quasiment nostalgiques. Après 45, elles sont optimistes en ce sens qu'elles imaginent souvent des mondes pires que le nôtre. C'est pour ça qu'elles sont optimistes. C'est-à-dire, sous-entendu, on ne vit pas dans le monde le pire qu'on puisse imaginer. Et depuis globalement une dizaine d'années, je ne sais pas s'il y a un effet de septembre 2001, mais à mon avis ça a commencé avant, ça s'équilibre. Au niveau en tout cas international. Mais c'est quand même ces trois phases-là. Hein. La bombe d'Hiroshima a marqué l'idée qu'un monstre, et puis la Shoah, que la victoire des nazis potentiellement, qu'un monde pourrait être pire que celui du nôtre. Avant, les uchronies sont quand même écrites soit par des écrivains sudistes qui regrettent que les sudistes n'aient pas gagné, soit par des Français qui regrettent que Napoléon n'ait pas gagné. Bon, il y en a encore qui s'inscrivent dans cette histoire, mais on y revient de manière plus lucide aujourd'hui.
Alors, s'il n'y a plus de questions, si vous avez 2 minutes et si vous pouvez, nous vous invitons à fêter la naissance d'Uchronie avec les auteurs à l'Espace Club Atlantique. Et Pierre va nous dire où c'est.
Premier étage.
Premier étage, voilà. Merci beaucoup.
Merci.